Alors la forêt, c'est pas un supermarché, hein. Ça c'est très important, c'est pas un self-service. Le CEP, il faut venir régulièrement, il y a des poussées, voilà, et il faut venir peut-être une ou deux fois par semaine au moment de la belle saison. Alors on va sous-entendre que les sols se sont gorgés d'eau, ça c'est favorable. Et si on a un automne doux et des nuits fraîches, qui est une forme de contraste thermique, le mycélium va se gorger d'eau et il va se concentrer et les sporophores vont pouvoir sortir. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps, ça fait du bien au corps, à l'âme, et puis il faut se réoxygéner, on a été enfermé, cloisonné. Là, on peut retrouver cette liberté forestière. Rentrez dans la forêt et peut-être vous aurez des belles surprises.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Les cueilleurs sont dans les starting blocks, les chefs ont le sourire et les gourmets salivent. Ça y est, on y est. À 3 jours de l'automne, le CEP décide enfin de pointer le bout de son chapeau dans les forêts de France. Et si ce cru 2021 est tardif, il promet, selon les mycologues, d'être plutôt abondant. Qu'on l'appelle CEP de Bordeaux, CEP comestible, gros pied, bouchon de champagne, plein feu, aujourd'hui sur le CEP, le vrai. Boletus et du lys pour les intimes. Comment expliquer cette folie CEP? Quelle différence entre CEP et bolet? Où, comment, quand le ramasser? Et au fourneau, que faire avec ce CEP? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la leçon de cuisine de Stéphanie Lequelec. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous êtes aux commandes du restaurant La Seine, 32 avenue de Matignon, Paris 8e, 2 étoiles au guide Michelin. Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas venu au micro dont on va déguster.
Ah bah c'est vrai, mais je suis content d'être là.
Ouais, et ben nous on est tellement ravis de vous accueillir. Le CEP est au menu de votre table gastronomique depuis quelques jours et vous allez le cuisiner de façon assez simple. Aujourd'hui, allez, juste un petit teasing pour nos auditeurs sans trop en dire.
Un peu de cru et un peu de cuit.
Un peu de cru, un peu de cuit, voilà. C'est bien résumé. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant et assez simple à faire. Et puis on ira prendre un bol d'air dans cette émission. Je vous emmène dans la forêt domaniale de Mormal, dans les Hauts-de-France, en compagnie du pharmacien mycologue Jean-Baptiste Coclaire. Va-t-on réussir ce défi de ne pas revenir le panier vide? La réponse dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, on va déguster Canal Historique. Elvira Masson, Dominique Hutin, bonjour les copains.
Bonjour à
bonjour,
toutes et tous.
Bonjour.
Elvira.
Bah moi je m'accroche encore un petit peu à un légume d'été.
Voilà.
Je suis pas encore dans les sous-bois.
L'été joue les prolongations non. Avec Elvira, un légume qu'adore d'ailleurs Stéphanie Lequelec, on va vous le prouver tout à l'heure. Et Dominique?
Bon, du cèpe, bien entendu, mais avec ou sans œuf final, champignon ou cèpe de vigne.
Ah, alors, pas mal.
En l'espèce, c'est pas très grave parce que je vais marier les deux univers.
Et oui, on va voir ça avec vous tout à l'heure. Résultat des jeux, plutôt vers 11h50. Y a-t-il du cèpe par... Non, 11h30 d'ailleurs plutôt. Y a-t-il du cèpe par chez vous? Comment vous le cuisinez, vous, à la maison? On attend vos réactions sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Pour retrouver tous les contenus dont on va déguster, nos podcasts, nos recettes, nos adresses. Le chemin est tout tracé, franceinter.fr, à la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster, avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de traquer et de cuisiner le CEP, j'ai une petite surprise à vous faire déguster, indice sonore pour nos auditeurs, je suis en train, ou j'essaye plutôt, de découper du pain. Mais il faudrait m'en dire plus. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez goûté? Côté croûte, côté mie, comment ça se passe pour vous?
D'abord, ils sont très bons. Hein.
Ah, premier indice olfactif.
Super bonnet.
C'est un peu le miel même. Quelque chose d'assez
bien joué.
Séduisant.
Un peu ample, miellé, et ben vous visez plutôt juste, cher Dominique. Je suis au regret de vous le dire.
Belle croûte bien dorée.
Et une belle mie grasse, de l'onctuosité, du moelleux.
Stéphanie Lequelec, vous aimez?
J'adore.
Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Eh ben, il a un truc de très particulier. Est-ce qu'on peut déceler une signature derrière cette miche de campagne?
Une farine particulière? Une farine différente?
Alors, de belles farines, on voit que la mie est quand même assez...
assez foncée.
C'est ambré. Hein.
Qui dénote une farine pas très raffinée. Je peux vous dire en plus que toutes les farines de ce boulanger ou cette boulangère sont biologiques.
Ouais, mais moi je crois reconnaître une signature de pain, là.
Ah. Oh non, elle va me casser la baraque.
Non, mais je n'en dis pas mais plus.
C'est frais aussi, c'est très frais. Mais c'est peut-être le fait qu'il ait été fabriqué il y a peu de temps.
Un peu d'acidité, tout à fait.
Mais vous reconnaissez quoi, Stéphanie? L'allure du pain, sous son odeur ou son goût?
En fait, c'est assez typique. Hein. C'est un pain qui est marqué hein, et qui est pas inintéressant d'ailleurs.
Mm-hmm. Alors?
Alors, j'irai du côté de mon copain Benoît Castel pour le boulanger.
Benoît.
Elle est forte, non?
Castel. Ce Benoît Castel, eh ben, quelle est l'origine de ce pain de campagne? Et surtout, attention, quelle fonction, quel message il porte? Eh bien, je suis allé à la rencontre de l'inventeur de cette miche à Paris.
Alors, je suis Benoît Castel, je suis pâtissier boulanger dans le 20e. Là, on est sur la boutique de Millemontant. Donc, on appelle ça le pain d'hier et de demain. On récupère les pains qui sont invendus, on les toaste pendant très longtemps. À partir de là, on en fait une crème de pain. On réalise une autre pâte à pain le lendemain. On fait un levain. Le troisième jour, on le cuit. Et voilà, et on arrive avec un pain qui est très, très, très humide, très croustillant, très alvéolé aussi. C'est un pain câlin, j'ai envie de dire presque. Hein. On a envie de poser sa tête dessus et d'être bien. Alors voilà, hop là.
On descend dans l'atelier. Bonjour. Voilà.
Donc du coup là on a tous les pains invendus qu'on récupère, qu'on ne jette pas, donc qu'on coupe en tranches et après on le toast. C'est très très toasté, ce qui donne cette couleur au pain bien particulière. Voilà, le pain a été humidifié, ça on va le mixer complètement et on en fera une crème de pain. En général, tu as à peu près 30% de pain réutilisé. Il faut épuiser la matière première jusqu'au bout, pas la gâcher. Et à partir de là, on va repartir sur une pâte à pain avec un levain. Donc là, on y va, on ouvre la porte du four, tu vois, et on va sortir le pain. Hein, c'est magnifique, hein. Mmh. Et tu as eu la mie très grasse et l'odeur aussi. L'odeur est...
Ah là là, incroyable. Il y a même des odeurs un peu mielées.
Ouais.
Aussi.
On y met du son aussi sur la croûte, qui caramélise un peu, et c'est plutôt très sympathique.
Et si ce pain-là n'est pas vendu, il repartira dans cet éternel...
Et voilà, c'est l'éternel recommencement. Et ça, c'est cool.
Merci.
Avec plaisir.
Voilà, bonne nouvelle chez Benoît Castel. Les pains invendus ne partent plus à la poubelle, mais dans le pétrin. Et pourquoi Dominique avait raison avec le miel? Parce que, comme il y a 30% de pains invendus qui entrent dans la fabrication de ce pain d'hier et de demain, eh bien, il y a le pain du coin, qui est son pain signature. Et ce pain du coin, il est fait au miel. Voilà. Donc on retrouve effectivement ces notes mielées. Retrouvez le pain d'hier et de demain chez Benoît Castel dans ses trois boutiques parisiennes. Et parmi ces trois boutiques, celle de Ménilmontant. Je ne sais pas si vous la connaissez, Stéphanie. C'est un genre d'atelier table d'hôtes qui sert un brunch qui a
qui cartonne.
Beaucoup de succès.
C'est génial, beaucoup de convivialité, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce que fait Benoît Castel, qui est un vrai généreux. Et je salue l'initiative parce que c'est extraordinaire.
Et j'espère surtout qu'il va faire des émules. Parce qu'il est temps, vraiment temps, de recycler le pain pour éviter de le jeter. Alors il y a bien d'autres initiatives qui existent et qu'on explorera dans les prochaines émissions, mais celle-là, c'est une sacrée initiative avec quand même une recette qu'ils ont mis 2 ans à mettre au point. Voilà, derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Mathias Saléon, Nadia Chougui, et c'est toujours Djoubaka qui fait le choix des disques. Djoub nous fait déguster les champis de Billy the Kick. Ça vous dit peut-être quelque chose juste avant qu'on se mette en quête de cep. Mangez-moi sur France Inter.
Faut laisser couler et puis on suffisamment acide, c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne me décourage pas, ouvrons les oreilles et écoutons. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Le CEP dit « Mangez-moi » sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct sur France Inter avec Stéphanie Lequellec, Elvira Ramasson et Dominique Hutin. Seulement voilà, le CEP n'est pas forcément là où on l'attend. Alors les cueilleurs du Sud-Ouest se sont vantés d'en trouver début juillet, ce qui marquait quand même une précocité inédite. Et quand on pensait les ramasser à l'appel fin août en raison des pluies estivales, eh bien le CEP n'était pas du tout au rendez-vous et la saison démarre timidement. Alors question simple. Stéphanie Lequellec, où sont les cèpes?
Alors, effectivement, ils étaient hyper précoces. On en a eu en juillet. Alors, pas nous à Paris, mais en région, il y a eu des chefs qui les ont travaillés. Ça nous a fait rêver. Nous, les chefs parisiens, de les voir déjà enrober ces cèpes dans de la pâte feuilletée, y mettre un petit jus, etc. Et puis là, effectivement, fin août, des illusions. Début septembre, il n'y avait rien. Et depuis quelques jours, on commence timidement, à en avoir quelques-uns. Alors, moi, j'en ai pas de région parisienne. Pourtant, j'ai des cueilleurs qui, normalement, viennent nous amener un petit peu leur trésor.
D'où pas ça, encore. De Sologne de...
Non, même un peu plus près. Hein. On est plutôt vraiment, voilà, par là, par exemple. Là, il n'y en a pas pour l'instant.
Ouais.
Il faut être encore un peu patient. En revanche, j'ai eu un peu de Sologne, j'ai un peu d'Auvergne. On a un peu des Landes aussi. On commence comme ça à aller chercher à droite à gauche. Alors là, ça passe bien sûr par le marché de Rungis. C'est pas mes cueilleurs en direct. Mm-hmm. Mais on commence à en avoir certains. Ils sont très chers. Pour le moment. Mais on commence quand même à se faire plaisir.
Prix constaté par Laurent Thomas, notre réalisatrice au marché de Suresnes en région parisienne. Attention, ça pique. 59 euros le kilo. On est en plein délire.
Habituellement, on est plutôt à autour de quel prix à cette époque?
C'est très fluctuant, mais ça reste un poisson cher.
Ça reste un poisson.
On est dans l'émission 7.
Je peux dire 42 euros dans la manche?
Ah, même dans
Je suis désolé pour vous.
Même chez vous.
Ouais, non, mais partout, il n'y en a pas. Donc la rareté fait le prix de toute façon. Mais effectivement, on est plutôt autour de 35, 40 euros maximum en début de saison.
Alors visiblement, les mycologues expliquent que certes, pour que le cep pousse en abondance, il faut de l'humidité. Et là, pour le coup, avec les pluies qu'on a eues cet été, il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y a aussi une question de température, hein, c'est ça le problème.
Bien évidemment, là, il fait trop chaud. Oui, il fait chaud, mais surtout les nuits ne sont pas assez fraîches. Il faut de l'amplitude. Il faut qu'il arrive à rafraîchir le sol pour créer de la condensation et il faut cette amplitude qu'aujourd'hui on n'a pas puisque les nuits sont un peu chaudes. On a cet été indien qu'on craignait.
Dans une année normale, Stéphanie Lequellec, quelle est la saison du cep en France?
Je dirais effectivement fin août jusqu'à fin octobre.
C'est ça.
Voilà.
C'est vraiment le cœur de la saison.
Après, ça, parfois un peu avant, parfois un peu après. Par chance, on peut tirer des fois jusqu'au 15 novembre. Mais globalement, c'est vraiment septembre-octobre, les deux mois pleins et forts.
Une petite virée en forêt, ça vous dirait? Pour voir si on peut tâter du cep?
Oui.
Oui. La saison du cep est lancée dans les Hauts-de-France, où il fait peut-être un petit peu plus frais. Je suis parti avec mes bottes, mon manteau de pluie et mon panier au cœur de la forêt domaniale de Mormal. Franchement, ce poumon vert au cœur des Hauts-de-France, allez-y. C'est une forêt tout à fait incroyable et j'y suis allé en compagnie d'un garçon étonnant, Jean-Baptiste Coquelaire. Sur les réseaux sociaux, il enfile sa casquette de JB cueilleur sauvage. Je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram.
Je le suis désormais, moi.
Ça dépayse, ouais, je peux vous assurer. Il travaille. Il est en collaboration avec pas mal de chefs parce qu'il se fait jamais rémunérer par les chefs de la région de Lille. Ils ont bien de la chance. Et dans la vie, figurez-vous qu'il est pharmacien, mycologue au Cateau Cambrésis.
Donc j'essaye d'identifier le maximum de paniers tous les ans lorsqu'on me les apporte à l'officine. Et aussi j'emmène du public, des chefs en cueillette à la recherche des perles rares et comestibles de la région.
Dans cet endroit merveilleux par exemple.
Oui, là aussi on se retrouve donc au cœur de la forêt de Mormal qui est la plus grande forêt des Hauts-de-France. Notre poumon vert, notre Amazonie et lieu de départ de cueillette. Lieu de balade aussi, on va aller tout droit là. Alors on va trouver du chêne, du charme, des hêtres évidemment, des beaux hêtres séculaires. Et on va essayer de regarder un peu dans les tapis de feuilles, si on ne peut pas trouver ce qu'on recherche tous, ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire le fameux cep de Bordeaux.
Le roi des forêts?
le roi de la forêt, mais de nos forêts de l'hémisphère nord. Hein. Il n'est pas qu'à Bordeaux, celui-là. Il se retrouve un peu partout. Donc, on a la chance de l'avoir ici.
Alors, il a un petit nom latin, ce cèpe.
Oui, le Boletus edulis. Edulis, qui veut tout simplement dire « bon à manger ». Tous les cèpes sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Hein, ça, c'est super important à savoir. Donc, il y a des cèpes bien connus aussi, le cèpe des pins, le cèpe bronzé. Tout ça, c'est majestueux, c'est les plus recherchés. Et après, il y a des cousins un petit peu piètre comestible, comme le chrysanthéron, le bolet à chair jaune, qu'on va peut-être trouver ici, parce qu'il est, il est assez présent également. Bon, il est là, regardez. Il est là, on va essayer de le prélever gentiment.
Alors là, on est sur un tapis de feuilles mortes, il y a un peu de lierre.
Il est tout petit, hein, c'est les premiers. On va le prélever, je prends mon couteau, tac, on coupe bien le pied. Je le retourne et là on voit bien cette mousse jaune, il n'est pas du tout véreux parce que ça aussi ils sont habités, hein. C'est des HLM à verre, hein, les champignons, donc faut bien vérifier. Et là pas de, de petites perforations, donc là on est nickel. Là on est face au bolet à chair jaune, le chrysanthéron qui est piètre comestible, mais on peut le déshydrater, on peut le mettre dans des vinaigres pour parfumer un peu, avoir cette odeur de sous-bois toute l'année, et on peut aussi le faire fermenter. Et
il ressemble vraiment au cèpe de Bordeaux en fait. Alors, c'est quoi les différences? Il fallait éviter les confusions.
Alors le cèpe de Bordeaux, lui, il est déjà un peu plus robuste, un pied bien enflé, un chapeau très beige avec une petite collerette, un petit liseré blanc très caractéristique. Et si on regarde en haut du pied du cèpe de Bordeaux, on a un petit maillage. Moi, j'appelle ça de la dentelle parce que ici, on est dans la terre de dentelle à Caudry, notamment. Cette petite résille en haut du pied qui est très caractéristique du cèpe de Bordeaux.
Là, on l'a pas.
Là, on l'a pas. Hein, là, on a un pied rouge, des liserés rouges, des pores jaunes. Le jeune cèpe de Bordeaux, au niveau bouchon, il y a des pores bien blancs qui vont verdir avec l'âge. Donc, privilégie, bien sûr, les pores très blancs pour le cèpe de Bordeaux. Là, pour le chrysanthéron, bah, là, il est typique. Des porcs jaunes, bon, bien cuits aussi si on veut le consommer, mais bon, faute de grive, on mange des merles.
Ça n'a pas le même goût que le cèpe de Bordeaux.
On n'a pas ce goût de noisette, hein, on n'a pas ce goût de noisette typique. Le cèpe de Bordeaux, lui, cette qualité, c'est le seul de nos régions qu'on va consommer cru. Mais encore une fois, après un bon diagnostic, une bonne diagnose par un spécialiste, parce qu'on ne peut pas se tromper en mycologie. On connaît très bien l'expression de Coluche, hein, tous les champignons sont comestibles et certains une seule fois. On n'a pas le droit à l'erreur.
Et oui, Coluche. Pour l'instant, on a trouvé un bolet à chair jaune, donc chrysanthéron, mais ce n'est qu'un cousin éloigné du cèpe de Bordeaux, le fameux Boletus edulis, la suite de notre cueillette tout à l'heure. Je signale que notre pharmacien mycologue, Jean-Baptiste, est l'auteur d'un très beau livre, Des cueillettes et des hommes, qui passe en revue 70 plantes sauvages et 45 recettes de chef. C'est aux éditions de La Martinière. Beaucoup de réactions,
oui.
Elvira.
Et tous les pharmaciens ne sont pas mycologues.
Et voilà.
C'est ce que nous fait remarquer Stéphanie, qui nous écrit pour nous dire que ça ne sert à pas à grand-chose d'aller dans une pharmacie pour savoir si on avait ramassé des bons ou mauvais champignons.
Sauf chez Jean-Baptiste Coquelaire.
Si le pharmacien n'a pas la formation de mycologue, quand on ne sait pas, mieux vaut s'adresser à des associations de promeneurs-cueilleurs de champignons. Il y en a partout en France.
Qui parfois sont diplômés
encore
par ailleurs.
Encore faut-il les trouver.
Ouais. Et des auditeurs nous disent que le cèpe apparaît aussi dans d'autres coins de France.
Oui, un auditeur, Gio Cérez, nous écrit qu'il en a plein. Il en a ramassé un kilo, pas plus tard qu'hier, du côté de la Montagne Noire.
Il n'a pas son coin à champignons pour autant.
Non. On est dans le Tarn, les Pyrénées.
Est-ce que Gio pourrait nous envoyer une géolocalisation précise de son coin?
Est-ce qu'il peut nous envoyer 3 kilos par colis fraîche?
Oui, 3 kilos et un point précis de son coin.
Oui, c'est ça. Le cèpe en version crue, c'est ce que disait Jean-Baptiste. Quand ils sont juvéniles, le cèpe bouchon, vous êtes d'accord avec lui pour dire que ça vaut le coup de le manger cru?
J'adore. Le cèpe, pour moi, c'est comme la Saint-Jacques. J'ai presque plus de plaisir à le manger cru que cuit. Alors, même si les deux sont merveilleux, mais le cèpe a cru quand il est comme ça, tout bébé, bien ferme, bien blanc, bombé, dodu, avec cette petite résille qu'il a soulignée, Jean-Baptiste, je trouve que c'est merveilleux. Alors, effectivement, là, je vous propose une petite recette.
La démonstration, on y va.
Non, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Mais carrément.
On a faim, là, on commence à avoir faim. Alors, j'aime pas le mot carpaccio, d'ailleurs, qui a plus trait à la couleur, et donc là, on est blanc.
Et puis, en général, il s'agit de viande, voilà. Même si là, on peut parler avec le cèpe de viande végétale.
Et en plus, carpaccio sous-entend quand même de fines tranches. Moi, ce que j'aime, c'est que j'aime bien retrouver de la mâche. C'est-à-dire que c'est un peu même, voilà, sur des champignons de Paris, j'aime de l'épaisseur, etc. Donc, on va faire comme ça. Des tranches accrues d'un cèpe. Alors, encore une fois, là, il faut bien ferme, bien nettoyer.
Tranches de quoi? D'un demi-centimètre d'épaisseur?
Oui, là, on est à 5 bons millimètres d'épaisseur. Et on va comme ça avoir de la texture et on va pouvoir apprécier le goût du cèpe. Donc voilà, j'en coupe comme ça.
Elle a le geste précis, hein, Stéphanie. Okay.
Formant voilà. Et alors un couteau qui coupe bien pour faire ça, parce que il s'agit pas de hacher la chair du champignon. Il faut vraiment respecter cette chair qui est délicate.
Il faut le trancher de façon nette.
Nette avec un geste sûr. Alors ensuite, dans une assiette, j'ai tapissé le fond sur environ 5 mm d'épaisseur d'une burrata crémeuse.
Ah, donc c'est la cousine de la mozzarella.
Voilà,
avec
clin d'œil
à l'italienne,
bien
peu de crème.
Crémeuse. Alors quand on la trouve fumée, on peut aller sur des notes fumées, parce que le cèpe aime bien, comme ça, ce côté un peu grillé. Moi, elle est nature aujourd'hui, je l'assaisonne d'un petit peu de fleur de sel, cette burrata dont j'ai tapissé le fond de l'assiette. Un bon tour de moulin à poivre. De la bonne huile d'olive, évidemment.
Là, on n'a pas encore installé les tranches de cèpe.
Non. Non, non, j'assaisonne, je condimente bien la burrata et je mets généreusement l'huile d'olive en dessous. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et ensuite, on va venir installer, comme ça, nos tranches de cèpe.
En éventail, en rosace.
En rosace, voilà, un petit peu joli. Petit peu joli.
Donc les tranches ne se chevauchent pas, elles sont juste disposées comme
là,
ça.
Là, je les dépose,
quoi.
Voilà, parce que ça ferait quand même beaucoup, beaucoup d'épaisseur.
C'est comme une fleur.
Et voilà.
Joli.
Un tout petit peu de fleur de sel sur chaque pied de champignon. Un petit tour de moulin sur chaque pied de champignon.
Ah, la belle idée.
Et je ne vais pas remettre d'huile d'olive parce que le cèpe est une éponge.
Ouais.
Et que si je veux avoir vraiment le goût du cèpe, je ne vais pas venir le noyer dans encore de l'huile d'olive. C'est pour ça que j'ai arrosé la burrata en dessous. Par contre, pour ce petit côté torréfié, grillé et twisté un petit peu ce cèpe, je viens râper du café torréfié.
Non,
ouais.
Des grains de café.
Des grains de café,
râpés en direct.
Tout simplement. Voilà.
Oh, joli.
Torréfié, et je vais venir comme ça, vraiment bien généreusement, napper chaque champignon de poudre de café.
C'est génial.
Formidable idée.
Ah ouais.
Et voilà.
Qu'est-ce qu'il est
juste ? Alors, attendez, quand même. Un petit pet d'acidité, ça fait toujours plaisir. Quelques capres au vinaigre. Une. Par cèpe, juste pour avoir ce petit éclat comme ça.
Et oui, capre très féminin. Hein.
Voilà.
C'est très graphique cette histoire.
Et tout simplement, ça va venir réveiller l'ensemble. Et là, on va déguster.
Eh bien, on va déguster précisément. Et on va laisser le temps à Elvira de déguster. Et en attendant, on repart en forêt. Bravo, hein, franchement, impressionnant. Et petite photo quand même avant la dégustation. C'est superbe. On repart dans la forêt de Marmale avec Jean-Baptiste Coquelaer dans l'espoir de trouver les premiers cèpes de l'année. J'ai de la chance. Notre mycologue me dévoile un de ses coins à Champy.
En fait, on a tous son petit jardin secret, on a ses petits coins.
Ce qu'on appelle le coin, ouais.
Le coin à champignons qu'on ne dévoile jamais. Il est très capricieux, ce cèpe. Et il va sortir des fois tous les 10 ans. Et ça a été vérifié parce qu'il y a l'influence climatique, météorologique, hygrométrique. Voilà. Rentrez dans la forêt et peut-être vous aurez des belles surprises.
Et justement, s'il fallait donner à ceux qui nous écoutent un ou deux conseils pour trouver un coin à cèpe, il y a une question d'essence d'arbre.
Voilà. Le cèpe, il aime bien les feuillus en général, les chênes, les hêtres, les charmes. Il pousse même des fois sous épicéa, mais il déteste. Alors là, si j'ai un conseil à vous donner, il déteste le Douglas. C'est ce fameux sapin qu'on nous met partout parce qu'il a une croissance rapide et il va servir au bois de confection de meubles. Donc n'allez jamais sous des douglaseries, j'allais dire.
Des plantations de Douglas.
Des plantations de Douglas. Parce que là, c'est sûr que vous n'aurez aucune chance.
Sol trop acide.
Et surtout, c'est un arbre qui n'est pas de nos régions. Et finalement, il n'est pas adapté. Donc le champignon, il est peut-être là, mais il ne va pas sortir. C'est pas ses latitudes. Et un autre conseil pour trouver. Soyez les premiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de question de lune, il n'y a pas de question de tout ça. Il faut être le premier sur le terrain parce que le cèpe, il ne pousse pas en une nuit. Ça, c'est sûr, ça, c'est faux. Il pousse en 5-7 jours pour être à mature. Donc, soyez les premiers, soyez audacieux. Et c'est dans l'audace qu'on arrive à avoir des beaux paniers.
Est-ce que le cèpe pousse plutôt à l'ombre ou est-ce qu'il aime la lumière? Ça peut être un autre indice.
Alors, aucun rapport parce qu'il aime bien les endroits, on va dire, aérés. Il est hétérotrophe au carbone, mais en aucun cas la lumière.
Il est quoi?
Hétérotrophe au carbone. Hein, donc c'est aussi un terme peut-être un petit peu scientifique, mais voilà, il s'auto-suffit, il va aller prélever dans le sol tous ces éléments nutritifs, c'est ce qu'il apparente peut-être aux plantes, mais c'est tout, il n'est pas photosynthétique, donc la lumière ou pas, soleil ou pas, ce qu'il faut c'est un endroit aéré, et surtout aussi, ça c'est vrai, les endroits peu piétinés, parce qu'il les déteste, comme tous les champignons, le piétinement, donc les chemins, et aussi malheureusement les passages où il y a eu des machines, des coupes, tout ça.
Et ben voilà, on a quand même quelques indices, j'espère qu'avec tout ça, on va trouver le tout premier cèpe de la saison,
oui,
c'est ça?
Faut pas espérer trouver des beaux sporophores. On va peut-être trouver des bouchons. Regarde, là c'est mon coin. Et regarde, je crois que c'est un premier bouchon. Je suis pas sûr. Mais ouais, bah c'est bon. On y a. Alors tu vois, tu fais une rotation d'un demi-tour. Hop. Et voilà. Regarde comme il est beau. Il est magique. Il est complet.
On dit c'est-à-dire là, c'est vraiment ce qu'on appelle un bébé cèpe, quoi.
Un bébé cèpe, bouchon de champagne, c'est ce qui est le plus prisé parce que. Il est concentré, on va faire une dégustation là, parce que l'on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas faire un repas à quatre là-dessus. Tu vois, je le brosse, il n'y a rien à enlever. Hein. c'est le ravissement des papilles, c'est l'éveil des...
C'est,
l'éveil
c'est tout. Ton tout premier de la saison.
C'est le tout premier de la saison. Alors moi, j'aime bien faire des petites lamelles, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup.
C'est très, très concentré.
Oh mon Dieu. Non mais ça, c'est pur. Là, on confirme par le goût qu'on est face à un cèpe, ce petit goût de noisette fraîche, c'est génial.
Donc là, on va se faire quand même quelques bouchons.
Bah, on va peut-être trouver d'autres. Hein. On est dans sa zone de...
Là, il y a aussi des ronces, hein, quand même. Hein.
Donc, il faut prendre aussi un petit bâton pour soulever les ronces. Là, le gibier n'y va pas. Hein, donc, il n'y aura pas de piétinement. Le sanglier ou les gibiers, ils sont très fans de ces petits bouchons. Des fois, on me ramène des cèpes. Les tubes sont verdâtres. Vraiment, ils ont une semaine. Les vieux cèpes, laissez-les dans la forêt. Bon sang, ne venez pas pour faire des concours de taille. Je veux dire, laissez-le dans la forêt. Il va se brûler. Il va engendrer peut-être des futurs cèpes l'année prochaine. Donc, laissez-lui le temps de se décomposer dans la forêt. Ne le prélevez pas. Il y en a deux, trois là. Deux, trois beaux petits bouchons. Allez.
Ah bah c'est...
Et champagne.
On est tombé sur un gisement, quoi.
Ouais, bah un petit gisement. Bon, après, on va faire plaisir à la famille.
Les premiers cèpes de l'année.
Ouais, alors je les brosse bien, je les nettoie bien, je taille le pied en crayon et je le pose propre dans mon panier. Parce que ça déteste l'eau, le cèpe, on l'a pas dit aussi. Et à la maison, peut-être avec une petite éponge légèrement humide pour le frotter un petit peu au-dessus.
Mais on le passe pas sous l'eau.
Surtout pas, surtout pas. Voilà.
Stéphanie Lequelec, vous approuvez les conseils de notre cueilleur Jean-Baptiste.
Évidemment.
Le cèpe aime l'eau dans la forêt, mais
et
pas dans la cuisine.
Il le déteste à partir du moment où il sort de sa forêt. Alors après, il taille déjà le pied en crayon. Ça, c'est génial, parce que c'est vrai que nous, on les reçoit souvent avec le pied brut, la souche coupée. Donc auquel cas, c'est nous qui les taillons dans la cuisine au crayon. Et un petit linge humide, évidemment, pour le chapeau.
Voilà, petit linge humide.
Légèrement tiède, et on vient comme ça caresser le chapeau.
Je vous adresse, chère Stéphanie, au nom de toute l'équipe dont on va déguster, nos félicitations pour cette recette de cèpe accrue.
Merci.
Huile, café. Ouais. Ça, le grain de café râpé comme une épice sur ce cèpe avec cet accord légèrement amer, torréfié, c'est vraiment...
Ça vient réveiller l'ensemble, le petit cap vient balancer le gras et l'onctuosité de la burrata et de l'huile d'olive. Normalement, ça marche.
C'est express. Enfin, c'est très long quand on a faim, quand on vous regarde.
C'est vraiment délicieux.
C'est vrai, une minute trente pour faire la
cèpe. Et la burrata qui apporte de l'onctuosité, bravo. Merci. C'est vraiment surprenant. Avant de donner la parole à Dominique, deux petites questions. On est vraiment, on croule sous les questions d'auditeurs qui cherchent à savoir où trouver des cèpes, comment on s'y prend. Souvent, il est vrai, c'est ce que nous disait Jean-Baptiste, certains cèpes sont des HLM pour les verts. Et parfois, on achète des cèpes qui ont l'air très beaux sur les tannes, on a la mauvaise surprise de voir que ça grouille de verre à l'intérieur. D'abord, est-ce qu'on peut récupérer ces cèpes-là? Est-ce qu'on peut les sauver, entre guillemets? Et surtout, est-ce qu'on peut les identifier au moment de l'achat, ces cèpes véreux?
Toujours compliqué, quand le verre est dans la pomme.
Et dans le fruit.
Voilà. Compliqué, alors parfois, ça n'atteint pas le chapeau parce qu'ils arrivent par le pied. Donc parfois, on arrive à stopper, à récupérer les chapeaux. Les pieds, quand il y a des verres, on peut malheureusement pas en faire grand-chose. Le choisir, c'est finalement très simple. Il faut tâter le cèpe.
Ah.
Voilà, il faut...
on a l'autorisation.
Si on a l'autorisation.
La fermeture qui est
un pied bien ferme, voilà, bien dodu, bien ferme. Éventuellement un petit coup de canif, hein, comme on peut faire sur la truffe. Il y a certains maraîchers le font. Canif d'emblée, mon maraîcher dans le 17e, rue Poncelet, canif un tout petit peu le pied, ce qui permet de voir que le cèpe est pur à l'intérieur.
Parce que quand on paye des cèpes très très chers et qu'on découvre effectivement que...
Ouais, c'est toujours embêtant.
Infestés de l'intérieur.
Nous, ça nous arrive quand on les prend par caisse, les cèpes au restaurant. Donc effectivement, on a parfois la mauvaise surprise.
Par contre, on va avoir une bonne surprise. Et ça, c'est grâce à Dominique Hutin qui a aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, l'accent italien.
On va déguster sur France Inter.
Domenico Hutini.
J'ai commencé en français, si vous voulez bien. C'est plus facile pour moi. Bon, en gros, moi, je vais confier un peu le stylo à l'esprit de Georges Perec. Vous rappelez peut-être son roman La Disparition.
Oui.
Il avait banni totalement la lettre E. Bon, c'est une chronique vin, j'ai une ambition un tout petit peu plus mesurée. Donc, je vais simplement trapper le E final pour faire un cèpe, évidemment, un cèpe de vigne. Mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance dans le sens où je vais marier ces deux univers qui parfois n'en font qu'un, comme en Italie, justement, vous l'avez souligné, où on va trouver un trésor dans une région qui s'appelle l'Émilie-Romagne, que vous connaissez bien, qui est la patrie des vinaigres balsamiques,
ah,
bien sûr, du parmesan, du jambon de Parme. Il y a un trésor qui est un petit peu moins connu, qui se trouve être justement un cèpe. Et je crois que vous avez un accent italien qui est un peu meilleur, ou qui fait moins rigoler que le mien en tout cas.
Fungo di Borgotaro.
Ah, il est drôle quand même.
C'est pas mal. Et vous savez que c'est la Sagra del Fungo di Borgotaro aujourd'hui, ça veut dire que c'est la fête, le 18 et 19 septembre, de ce cep qui pousse effectivement près de Parme et qui bénéficie d'une indication géographique protégée, Dominique.
Vous voulez dire par là que vous avez travaillé votre sujet,
et
c'est
oui,
ça
c'est à cause
bien
de vous.
Alors effectivement, il y a une IGP, c'est le seul en Europe. Alors ça n'est pas que ça. Non seulement il y a une IGP qui le produit, qui le protège, pardon, mais il est aussi décrit comme étant le seul fruit et légume au monde qui ne peut être cultivé. Voilà, je vous le sers tel que je l'ai recensé auprès de nos amis italiens. Et donc, évidemment, j'ai essayé de trouver le vin qui collait au plus près sur les mêmes terroirs, ce champignon magique. Je suis resté dans cette région-là. Et j'avoue quand même l'avoir trouvé avec beaucoup, beaucoup de difficultés sur un site internet d'un caviste parisien qui s'appelle Divino, tout collé avec deux V. Divino, tout collé. C'est une piste assez rare. Donc, c'est la cuvée Primos. Vous voyez, je parle italien. Primoroso. C'est un Barbera d'Emilia, pardon.
C'est un quoi? Non, pas.
C'est facile, Barbera, c'est facile, c'est très facile. D'Emilia, je peux même vous le refaire plusieurs fois. Et le domaine s'appelle Vigna Cunial. Alors, j'étais interpellé quand même par la recette de Stéphanie, parce que vous avez parlé de burrata qui pouvait être un petit peu fumée, vous avez rajouté le café. Ça n'est pas un fait exprès, parce qu'on découvre la recette en live, là, aujourd'hui. On ne s'est pas parlé, et je pense qu'il y a un pont, je pense qu'il y a une communauté d'esprit entre ce vin, qui est assez fin. Il a un caractère fumé, parce qu'il est passé un peu en barrique, etc. Mais il est assez fin. Il n'écrase pas ce champignon, qui justement, comme il est frais, est assez ferme. Donc, c'est assez sympa. Je sais pas, vous avez pu le goûter, peut-être. Il est assez,
Qu'est-ce que vous en pensez,
de la
Stéphanie?
Pas beaucoup de tanin.
J'aime beaucoup, je trouve ça va très bien, ouais.
Alors, puisqu'on est posé au milieu des vignes, quand même, il faut que je vous avoue un truc, c'est que vin et champignons, c'est un mariage qui est parfois un petit peu sur le mode « je t'aime, moi non plus ». Spécialement en automne, là, en ce moment, parce que ça amène à penser à quelque chose. On est en période de vendange, donc évidemment, on a en ce moment des vignerons qui se battent contre des maladies, notamment un champignon qui, lui, est dévastateur, qui s'appelle le botrytis, qui est connu des jardiniers, hein, par ailleurs, sur les tomates, sur les pommes de terre, etc. Et qui est vecteur d'une pourriture grise. Pourriture grise qui est synonyme de perte de récolte assez considérable. Alors, il y a une ironie dans cette histoire-là, c'est que ce même champignon, le botrytis, il est aussi à l'origine de la pourriture noble qui concentre les sucres et qui donne les grands vins liquoreux. Donc voilà, enfin, quand même, une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, elle est rapportée cette fois par nos collègues de la très sérieuse revue Vitisphère, qui fait écho de plusieurs études simultanées, dont celle de l'INRA, qui est l'institut qui est sous la coupe des ministères, la recherche, de l'agriculture, l'alimentation, c'est vous dire si c'est du costaud, du sérieux. Ils envoient des signaux très positifs qui nous disent, je résume, c'est une très longue étude, je résume, ils nous signalent l'amélioration d'environ 70% des indicateurs biologiques du sol en agriculture biodynamique, suivi de près par l'agriculture bio par rapport à l'agriculture conventionnelle, notamment en termes d'interaction entre les bactéries et les champignons.
Voilà qui calmera les anti-biodynamies.
Je vous laisse vous débrouiller avec tout ça et un abondant courrier que je sens déjà arriver.
Oui.
Alors après ces bonnes nouvelles, une petite mise en appétit, quelques accords très rapidement. En mode brunch, par exemple, vous pouvez... Alors j'ai une pensée pour celles et ceux qui nous écoutent depuis leur lit maintenant. La recette des galipettes, par exemple, vous la connaissez, c'est une recette d'Anjou. C'est son vrai nom, je suis désolé, Elvira, qui est en train de m'envoyer des signaux. Les galipettes, c'est très simple. Vous prenez un gros champignon de Paris, vous le retournez, vous enlevez le pied, et donc vous avez pratiqué un vide que vous avez simplement comblé ou avec des rillettes ou avec du chèvre frais, pouf, au four.
Ah, mais
et ça fonctionne
faites,
très bien.
Dominique, si vous
en
êtes...
faites souvent des galipettes?
Ouais.
Bon, je care.
On en a déjà parlé.
En mode un peu plus snob.
Un plat signature de Dominique.
Un plat signature, oui. C'est plus
c'est
rapide
pas, c'est
que
pas
les...
si fréquent.
Plus rapide. En mode snob, parce que là aussi, on pense pas assez souvent à nos amis très riches. La truffe noire, par exemple, juste émincée. Là, vous pensez à des champagnes de pinot noir qui avec des millésimes très mûrs. En mode plancha, par exemple, vous prenez shiitake avec un beaujolais. En mode, il n'y a plus rien dans le frigo le dimanche soir. Voilà, c'est assez facile. Un gratin de champignons, puis de champignons, par exemple, un rouge de Loire, c'est assez facile. Et puis en mode retour de forêt, vous pouvez penser à une omelette au cep, Bordeaux. Le cep de Bordeaux, après tout, c'est le moment ou jamais de s'en occuper. Un peu plus cavalier, le plat signature qui pourrait être celui de Stéphanie Lekelec.
Oula.
J'ai pris votre nom, Stéphanie, et de Lekelec, j'ai tiré.
Je crains le pire.
Non, non, du tout, du tout. Il n'y a aucun piège. On peut former ce plat. Quenelle, thé, cep. Et ail, et il se trouve que l'ail et le cep fonctionnent très bien ensemble.
Ah alors bah pouvez... on abordera le sujet peut-être.
Quenelle,
thé, cep et ail. Alors c'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir son plat signature avec ses propres lettres. J'ai essayé avec François Régis Gaudry et puis en fait ça donne double burger 700 grammes avec supplément sauce barbecue. Donc c'est un peu différent. Bon, enfin voilà. Donc pour compenser, et je finirai là-dessus, j'ai quand même trouvé un écrit assez ancien qui atteste d'un certain nombre de pistes, notamment celle de la forêt que vous avez parcourue avec notre ami mycologue tout à l'heure. Attention, ça va piquer un tout petit peu. Je vais me donner... Chez le Kélec, on s'est toisé, mon amoureuse. Moi, je ne sais, toi, amanite, ma vénéneuse. De bois en bois, on s'est recroisé en sorceleuse. Tu es ma drogue, t'es mon poison, intraveineuse. Au bar des sports, un grand bolème, un baladeuse. Pensée docile, gentille morille, trop, pas trop frileuse. Il t'a cru sienne, tu t'es joué de lui, montre religieuse. En fricassé, on l'a bouffé, fin. Délicieuse.
Il se prend pour Tiefen. Bravo. Ah, bravo, chouette. Dominique Cutin. Et un petit cadeau, Stéphanie Le Kélec, puisque oh Dominique là. Évoquait le Fungo di Borgo Taro, qui pousse en Émilie-Romagne. Il s'en trouve chez Alessandra Pierini. Voilà.
Et merveilleux, ben, le cèpe séché.
Un petit paquet qui dirige Rap à Paris.
C'est une pépite, le cèpe séché, parce que vous savez que moi, j'en fais des poudres de cèpe séché. Et alors, au-delà d'en faire des poudres, j'en fais des pâtes avec cette poudre. On mélange à de la farine, etc. On fait une pâte et on a un plat signature.
Donc on mixe
à la
scène.
On mixe ça, voilà, très très fin, comme du café. Vraiment, on passe au tamis. On en fait une poudre et avec ça, on fait des pâtes, enfin plein de choses. Mais aussi, cette poudre peut venir. C'est très umami, la poudre de cèpe séché.
Très sapide.
Très sapide. On va vraiment chercher de la profondeur de goût et comme ça, sans savoir que c'est de la poudre de cèpe. Dans une sauce, même une très belle sauce tomate, etc. On vient concentrer comme ça complètement les arômes et ça apporte de la sapidité. Donc c'est un peu l'ingrédient magique, la poudre de cèpe.
Parfait. Dans un instant, vous allez être derrière les fourneaux dont on va déguster toujours en direct pour nous expliquer, en des mots simples, une poêlée de cèpe bah, finalement facile à faire et en même temps très précise à votre image. Et tout ça, c'est juste après ça.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face.
What about me? I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill.
Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. My idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
I get a kick out of you, Lady Gaga et Tony Bennett, le cep, la pète. Dont on va déguster grâce à la chef Stéphanie Le Kélec. Vous êtes bien sur France Inter.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Et notre chef Stéphanie Le Kélec au fourneau de La Seine, restaurant gastronomique très important hein, sur la, j'allais dire sur la Seine parisienne, mais c'est quand même le cas. Vous avez 2 étoiles Michelin et vous comptez beaucoup dans le cœur des gourmets. Vous êtes derrière la plaque de cuisson.
Et oui.
Et vous avez enfilé votre casque pour nous faire.
Pour vous faire une poêlée de cèpe.
Mais
dans
oui.
les règles de l'art.
Évidemment, parce qu'alors beaucoup de questions se posent sur la poêlée de cèpe. Quelle matière grasse? Aïe ou pas aïe? On va essayer de résoudre tout ça avec vous.
Alors moi, matière grasse, huile d'olive,
ouais.
quelques gouttes dans une poêle Tefal, enfin une poêle antiadhésive.
Bien chaude.
Bien chaude. Hop, et on jette. Alors les cèpes ont été bien sûr nettoyées. Je les ai coupées en quartier, donc là encore, moi j'aime bien les garder de la mâche. Hein,
comme donc un peu épais.
Un peu épais. Et donc là on entend, ça saisit. Hein.
Et huile d'olive plutôt que beurre, parce que le beurre risque de brûler ou...
Absolument, le beurre risque de brûler. Donc huile d'olive, on les saisit un peu. Pas trop d'huile, parce que là encore c'est une éponge. Donc il faut absolument qu'ils absorbent pas cette matière grasse. On les fait comme ça, un petit peu de sel, le champignon... On l'assaisonne en début de cuisson.
Ah, on l'assaisonne en début de cuisson, avec le risque, peut-être, certains chefs disent...
Qu'il crache un peu d'eau.
Pas trop tôt, parce qu'il va dégorger.
Bah, oui et non, parce qu'on ne l'a pas immergé. Donc là, on a des cèpes bouchons, ils sont bien fermes, il n'y a pas de raison qu'ils dégorgent.
Hein. Très bien.
Donc voilà, une petite minute dans la poêle, comme ça. On les retourne, et moi, je vais terminer après avec une noisette de beurre demi-sel. Mais alors,
Très bien.
Dans les 10 dernières secondes, pour les enrober, pour ramener comme ça de la gourmandise, cette saveur qu'on aime du beurre qui devient noisette. Et après, quelques gouttes de jus de viande éventuellement. Et alors l'ail, sur la question de l'ail, pas d'ail haché pour ma part. Une gousse d'ail en chemise, simplement lors du poêlage. Et comme ça, ça vient juste donner la saveur dans la matière grasse.
C'est ça, donc un tout petit peu d'ail, mais pas trop non plus.
Voilà.
Ah, là c'est une affaire de quelques minutes, car vous mettez déjà votre noix de beurre frais.
Absolument. Ça chante hein, dans la poêle.
C'est beau, c'est
voilà,
bon.
Voilà, je vais vous prendre...
Et ça commence à sentir très bon dans le studio dont on va déguster.
Voilà, ça colore très vite.
Donc là, c'est une affaire de quelques minutes.
Il ne faut pas le surcuire. Hein. Le cèpe, voilà, pour le coup, sinon après, il devient tout mou, tout flasque. On en perd cette texture et cette fermeté, alors que ce cèpe était magnifique à la base.
Elle est capricieuse, notre plaque.
Elle est un peu capricieuse, elle me joue des tours. Même.
Vous restez toujours là, à feu quand même, assez vif.
Assez vif, et ça va vite, 2-3 hein, minutes. Voilà. Là, je vais terminer la poêlée. Alors moi, j'avais amené un petit jus de volaille là, pour venir finir d'enrober les cèpes, ramener là encore un peu de sapidité. Un tout petit peu de persil ciselé ou de petites ciboulettes ciselées, tac.
D'accord.
Un tour de moulin à poivre en fin de poêlage et le tour est joué.
Et est-ce qu'on pourrait définir cette poêlée à la provençale?
Alors non, parce qu'à la provençale, c'est vraiment lorsqu'on termine avec une persillade, ail et persil. À l'inverse d'une poêlée à la bordelaise où l'on va terminer avec une échalote ciselée. Là, finalement, c'est une poêlée à la Le Quellec. Où on sort un peu des codes, mais encore une fois, la cuisine, c'est comme on aime la manger, donc il faut se faire plaisir, on ajoute un petit peu ce qu'on veut. L'essentiel, c'est ce principe de cuisson, de bien saisir et de bien venir terminer. Alors là, pour la petite recette, je les dépose, ces cèpes poêlés, de manière assez classique, sur une tartine.
Alors expliquez-nous ce que vous avez fait à cette tartine, c'est pas ordinaire.
Petit pain au levain,
ouais.
Toasté d'un côté, frotté légèrement à l'ail, puis tartiné d'un caviar d'aubergine.
Ah, la bonne idée.
Ah, tiens, il y a comme des transitions qui vont se faire.
Écoutez,
il y a des ponts qui se lancent. Ouais, vers Elvira Masson notamment.
Je vous tends la perche, Elvira, pour la suite.
C'est tellement sympa de faire ça.
Parce que l'aubergine et le cèpe font bon ménage finalement.
Ah, ça c'est une belle surprise. Qui l'eût cru, parce que l'aubergine c'est plutôt l'été, le cèpe plutôt l'automne.
Oui, mais en fait finalement, le début du cèpe c'est la fin de l'aubergine, donc on a comme ça des magies, des choses qui se croisent.
Quel parfum, tartine de cèpe poêlée avec avec un petit caviar d'aubergine.
Avec un petit caviar d'aubergine.
Tartiné sur du pain toasté.
Et là, et toujours dans notre histoire, vous vous rappelez d'acidité, d'équilibre, de balance, je viens mettre des petites rouelles d'échalotes marinées au vinaigre de Xérès.
Splendide.
Voilà.
La recette est évidemment en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et on n'oublie pas le petit tour de poivre du moulin.
Toujours.
Pour finir, bravo hein, Stéphanie. Là,
merci.
Ça a pris. Et franchement, ma réalisatrice nous précisera les timings. Mais je pense qu'on est autour de 2 minutes bien enrouées. Donc c'est vraiment une recette qu'on peut faire
de façon
assez rapide, à condition de préparer un petit peu avant
un
cette purée d'aubergine.
Nettoyer les cèpes aussi, etc.
C'est un peu fastidieux le nettoyage des cèpes quand même. Hein.
Ouais.
Ça veut dire quand même que le cèpe appelle toujours un peu d'acidité ou de vinaigre. Quoi.
Absolument.
Il faut quand même un petit twist, sinon il est un peu éteint.
Ouais, c'est bien de le réveiller. Ouais.
Et le cèpe appelle aussi un peu l'aubergine.
On va déguster sur France Inter.
Elvira,
Oui, je sais, on avait foncé droit dans l'automne. Ça sentait le sous-bois et tout, mais moi, j'avoue que je suis déjà nostalgique de l'été, qui, je vous le rappelle, ne s'achève pas officiellement avant mardi, je crois. D'ailleurs, dans plein de régions, c'est en ce moment la pleine maturité des tomates, des courgettes et donc de l'aubergine que vous avez apporté, Stéphanie, qui est un de mes légumes préférés, pas tant par son goût, parce que l'aubergine, la pauvre, c'est pas forcément sa première qualité, le goût, mais plutôt toutes les possibilités de texture et tout le champ des possibles qu'elle ouvre. Nous étions la semaine dernière, François-Régis, dans le Nord, quelques heures après votre virée en forêt,
oui,
pour
je
tenter
me souviens
péniblement de ramasser des cèpes. Nous nous sommes attablés ensemble à M. M, c'est à 20 minutes, H-E-M, à 20 minutes du centre de Lille, au jardin, qui est la serre auberge du chef Nicolas Pourcheresse, chef jurassien mais transfuge nordiste.
Absolument.
Eh bien, certaines des aubergines qui étaient dans sa serre n'étaient même pas encore à maturité. Mm-hmm. Il nous a préparé des aubergines comme ça, préparées avec une sauce soja marinée assez longuement, ouais, précisément pour compenser un petit peu le manque de maturité. Et alors, Nicolas Pourcheresse, il est fan d'un mélange étonnant, je ne vais pas dire détonnant, maintenant avec ce qu'on a vu avec Stéphanie, c'est aubergine, date, cèpe.
On y revient.
Mais on y revient, comme quoi,
j'ignorais, moi.
Le plat d'union entre l'été et l'automne.
Parfaitement. Et Nicolas Pourcheresse trouve que c'est un mélange qui n'est pas du tout détonnant, parce qu'il est naturel, aussi bien visuellement. Il parle de choses comme harmonie chromatique, de ces éléments bruns à chair blanche.
Tout à fait.
Il parle de jeu de texture. Et l'aubergine, comme le cèpe, ont ce côté assez charnu, avec une certaine mollesse ou viscosité. Alors on a bien vu que le cèpe, il faut le saisir assez rapidement pour ne pas surjouer la viscosité.
Mmh.
Et puis il y a effectivement aussi le côté assez poétique de la fusion des saisons, l'approche de la fin de l'une et l'avènement de l'autre. Alors le principe de la recette de Nicolas Pourcheresse, c'est de la pulpe de date transformée en condiment avec de l'huile de noisette, de la ciboulette chinoise. L'aubergine est rôtie au four puis laquée de sauce soja, vinaigre balsamique et miel et servie avec des cèpes grillés d'un côté et posés sur l'aubergine.
Il a un talent incroyable, ce chef. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de goûter sa cuisine. Nicolas Pourcheresse,
ouais,
un ancien
élève de Passard. J'ai pas encore eu l'occasion
de
goûter, mais c'est, je vois passer ce qu'il fait et ça donne très très envie.
Il a des intuitions formidables et beaucoup de convictions.
Donc on a compris que Stéphanie n'a pas besoin d'être convaincue par la pertinence des aubergines en ce moment. Et j'en veux pour preuve ce zaalouk d'aubergine. Ah. C'est une merveille. C'est quelque chose que vous servez au MAM, qui
chez
est votre
MAM, ouais,
deuxième
ouais
adresse.
Ouais,
qui est
la
choses
maison de cuisine,
c'est
dédiée
ça
à la cuisine de maison.
De cuisine un peu, voilà, de cuisine simple, du quotidien.
On pourrait dire vulgairement traiteur, hein, pardon.
Enfin, oui, c'est ça.
Oui.
Ouais. Alors,
mais j'aime bien maison de cuisine.
Ah, mais
voilà, c'est joli.
Évidemment. Et quelle maison d'ailleurs.
Et ce zaalouk qu'il faut absolument que vous goûtiez, c'est une salade d'aubergine marocaine. C'est une purée qui est servie en accompagnement de viande grillée, mais qu'on peut aussi manger comme une salade. Zaalouk signifie quelque chose de mou. Donc ici, les aubergines ont été grillées, j'imagine, mais elles peuvent être aussi cuites à la casserole.
Ouais, voilà,
avec ou sans
colorées,
peau,
ouais.
Avec ou sans peau d'ailleurs, avec des tomates, de l'ail, assaisonnées chez vous de beaucoup de cumin.
Cumin, coriandre fraîche, tomates fraîches. Peu de vinaigre.
Et ça rentre dans la grande famille de ce qu'on appelle, nous, un peu bêtement, je trouve, le caviar d'aubergine. Mmh. C'est préparation à base de chair d'aubergine cuite, agrémentée et servie froide, et qui est populaire sous d'autres noms, évidemment, que caviar d'aubergine, à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Mmh. À commencer, évidemment, par le célèbre baba ganoush, ou
oui,
le moutabal, la cuisine levantine. La melitsano salata grecque, là, ce sont des aubergines, melitsano, c'est aubergine en grec, des aubergines grillées au charbon de bois, pelées, écrasé en purée, avant d'être agrémenté d'ail, de jus de citron, d'huile d'olive, d'oignons et de tomates. L'ajvar des Balkans. L'ajvar, on connaît cette purée qui est souvent faite de poivrons, mais qu'on peut agrémenter d'aubergines et de tomates. Il y a le chiopolou bulgare,
oula,
aubergine, tomate, poivron,
moi,
toujours
est,
le même
j'ai
principe.
C'est plus facile que l'italien,
non,
votre truc.
Non, mais je connaissais jusque-là. Maintenant,
en fait,
j'avoue que...
Non, j'ai un nom égyptien que j'arrive pas à prononcer, donc je m'y risque pas. Et en revanche, il y a la patlikan salatsi turque. Pour revenir aux zaalouk, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais ces derniers jours sur la cuisine de transmission orale au Maroc. Donc j'ai pas lu grand-chose, parce qu'évidemment, comme c'est une cuisine de transmission orale, on ne lit pas des milliards de choses. Cuisine de mère, de grand-mère et de dada. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une dada?
Non.
La tante?
Peut-être. La tante, oui. Ou alors la personne qui vient vous aider, vous soutenir au
la
ménage
nounou
et à la
c'est
cuisine.
C'est exactement ça. Les dada au Maroc, c'était ces cuisinières qui officiaient au service des familles bourgeoises.
Ah.
Longtemps, les dadas dans les familles bourgeoises du Maroc étaient des descendantes d'esclaves venus du Soudan, devenus cuisinières lors de leur exil au Maroc. Et c'est justement une recette de caviar d'aubergine du Soudan, enfin du Sud-Soudan, qui m'a séduite. Ça s'appelle Aswada. Je vous laisse goûter. François-Régis, pardon, je ne vous ai pas préparé de tartine. Goûtez, il faut deviner l'ingrédient secret qu'il y a dedans. Ce sont des aubergines au four, réduites en purée.
Oh, c'est bon.
Il y a un oignon rouge, il y a de l'ail.
Il n'y a pas un peu de fromage?
De quoi?
Un produit laitier? Non, pas du
non,
tout.
Non, pas de produit laitier. Il y a un peu de coriandre moulu, il y a la pulpe de tomate.
Cacahuète.
Absolument.
Ah mais oui. Cacahuète.
Ben voilà, c'est un caviar d'aubergine à la tomate, concentré de tomate, oignon, ail et pâte d'arachide.
Bravo Stéphanie Lecalec.
Est-ce côté qu'il n'y a pas un côté un
vous
peu...
avez lu les fiches de David?
Bon, oui, bah, oui, bien sûr, je triche, moi.
J'imprime en caractère 14 en ce moment. Mes yeux m'ont lâché.
Coalition féminine, François Régis, toujours.
C'est ça.
Alors, c'est comment cet assoie-là?
C'est prodigieux.
C'est très, très bon. Hein.
On soirait un peu à l'heure de l'apéro avec cacahuète, mais elle avance à pas feutrer. Elle est subtile, la cacahuète.
Ah, elle est très subtile. Ah, ouais. Parce que c'est... moi, je ne suis pas fan de cacahuète, et là, je trouve que ça vient merveilleusement souligner.
C'est génial.
Il
n'y
a qu'une cuillère à soupe de pâte d'arachide pour deux grosses aubergines, une gousse d'ail, un oignon rouge.
Et c'est
formidable. 3 cuillères à soupe de pulpe de tomate, un peu de concentré de tomate, et j'ai mis un peu de coriandre en poudre, et pas mal, non, surtout citron, pour casser le côté un peu gras.
Et on la sent,
évidemment, pas mal de citron, le jus d'un citron.
C'est une petite tuile craquante, fine.
Oui, mais même sur ce merveilleux pain de Benoît Cassel, je pense que
ça nous change un peu du baba ganouche.
Non, mais c'est merveilleux.
Levantin,
vous l'avez trouvé où cette recette?
Bah, j'ai farfouillé. Je peux pas vous dire.
J'ai essais, etc. Et la recette, comme par magie, atterrit sur le site de l'émission.
La vie est bien faite.
Vous nous redonnez, par contre, le nom de cette recette. Assuada. Vous appelez ça quand?
Assuada.
Bravo, hein, franchement. Et bonne nouvelle, il y a encore quelques aubergines quand même sur les étals.
Mais oui, il y en a encore sur les étals. Et la saison est assez tardive. Moi, au potager, on les a maintenant, en fait. J'en ai qui arrivent demain matin.
C'est ça. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais déjà on a encore une petite chose à vous demander, Stéphanie, parce que beaucoup d'auditeurs nous demandent une recette idéale, la recette parfaite d'un velouté de cèpe, quand les cèpes sont pas très beaux.
Bah, d'ailleurs, c'est dommage de sacrifier du cèpe très beau dans un velouté. Donc,
qu'ils soient un petit peu avancés.
Voilà, donc effectivement, quand ils sont gros, alors quand ils commencent à être un peu mousseux en dessous, effectivement, ça peut partir dans un velouté. Quand ils commencent à être un petit peu fatigués, voire même, des fois quand on a un petit cep surgelé, parce que ça existe aussi, on peut le souligner. Voilà, on a probablement des auditeurs qui en utilisent. Tout simplement, on fait fondre une petite cuillère de beurre de micelle, on fait fondre une petite échalote comme ça, ciselée très finement, à peine translucide, on va pas chercher la coloration. On y jette les cèpes qu'on fait là revenir. Là, par contre, on va monter un petit peu la puissance. On va aller chercher un petit peu de coloration, des petites notes un peu toastées, grillées, parce qu'il faut lui donner du caractère à ce velouté. On veut
et
pas un
couleur.
Champignon bouilli. Et on veut lui donner de la couleur. Donc, on va aller chercher ça. Et puis, après, une petite gousaille en chemise. Et effectivement, on peut après venir déglacer avec moitié à hauteur, moitié bouillon de légumes et un petit peu de crème.
Et là, ensuite, on mixe.
Ensuite, on mixe.
Blender ou mixeur
plongeant à soupe. Et puis après, c'est pareil. On peut venir remettre un petit coup d'huile d'olive à l'envoi. Quelques croûtons, pourquoi pas. Voilà, on fait comme on veut.
J'ai eu le temps de taper dans cette tartine aubergine cèpe poêlée. C'est prodigieux. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pour moi tout seul. Voilà, je garde l'assiette. Stéphanie Lecalec, merci beaucoup d'être venue. Restaurant La Seine, au succès fou. Hein. Vous avez des réservations dans tous les sens et c'est mérité. Avenue de Matignon, Paris 8e. Il y a aussi MAM, votre maison de cuisine, service traiteur dans le 17e arrondissement de Paris. Et il y a votre livre, Cuisine, votre carnet de recettes personnelles aux éditions du Chêne. Un grand merci. On va déguster dimanche prochain. Le café, on évoquait le café râpé. Et ben le café extrait en boisson,
génial.
C'est notre menu du jour la semaine prochaine. À dimanche prochain si vous avez encore faim.